6h56, Marie-Laurence, dans les faits divers. Les détenus de la prison pour femmes de Joliette ont maintenant accès à des seringues et ça s'en inquiète plusieurs.
Plusieurs, dont les détenus, les agentes correctionnelles aussi, parce que des seringues, ça peut être considéré comme une arme. Mm-hmm. En plus, si elle est souillée, imaginez, il y a beaucoup de gardiens de prison, donc et même des détenus, certaines en tout cas, qui ont peur en ce moment à la prison de Joliette, parce que depuis une semaine, elles peuvent se droguer, les détenus peuvent demander une seringue propre, se l'injecter dans leur cellule et la garder avec elles. C'est la première prison au Québec où c'est possible. Il y en a d'autres au Canada où ça existe, mais c'est relativement nouveau comme programme. Service correctionnel Canada a dit permettre ça pour éviter la transmission de maladies, pour éviter les surdoses. Mais les agents correctionnels disent que ça n'a pas de bon sens parce que dans les prisons, la drogue, c'est illégal. Évidemment, c'est parce que c'est illégal qu'il n'y en a pas, là. Mais là, on vient carrément leur donner un outil pour se droguer. C'est un peu paradoxal. J'en ai parlé, entre autres, avec Caroline Bocage. Elle est intervenante de première ligne. Elle travaille à la prison de Joliette depuis 8 ans. Elle dit que des crises, comme on appelle dans le jargon, des femmes qui sont désorganisées, ben ça arrive. Les agents correctionnels ont un uniforme, ont des gants, donc des seringues, ça passe facilement au travers. Mais on craint aussi que les détenus s'en prennent entre elles avec des seringues. On l'écoute.
Oui, il y aura des critères d'octroi, mais ça n'empêchera pas que la détenue qui n'aura pas eu accès ou que le critère d'octroi ne répondra pas, qu'elle ne va pas prendre une autre détenue puis l'obliger à lui donner sa seringue. Sécuritairement parlant, on n'est pas garant de rien là, dans ce programme-là. Là. C'est des chambres non fermées. Hein. C'est comme des colocataires. Là. Les détenus disent, bon, OK, moi, là, les seringues sont pas accessibles. La drogue n'est pas accessible si facilement. Mais là, je vais savoir que ça va être ma collègue, ma voisine va avoir une seringue avec elle dans sa cellule. Et moi, je vais devoir gérer cet incitatif-là pour moi parce que je traverse une porte puis je peux me shooter, là.
Le syndicat des agents correctionnels dit qu'il n'est pas contre l'idée là, de trouver des solutions pour, entre autres, éviter les surdoses. Mais ce qu'il voudrait, en fait, c'est que ce soit supervisé, davantage supervisé, comme ça se fait déjà. Il y a une prison en Alberta où ça existe. Il y a un programme où les détenus peuvent avoir des seringues, mais elles doivent absolument se shooter, pour reprendre l'expression de l'agent correctionnel. Elles doivent le faire, donc, sous supervision, sous surveillance médicale.
Et la police est à la recherche de victimes d'agressions sexuelles dans le secteur de Longueuil.
Votre fille, dans le coin de Longueuil, mais aussi Montréal, a peut-être croisé cet homme qui a été arrêté. Elle pourrait donc avoir vécu un scénario semblable à ce que je vous raconte maintenant. C'est un matin d'école, donc au mois de février, 7h30. Il y a une petite fille de 10 ans à Saint-Hubert qui est dehors. Elle est en route vers l'école. Il y a un homme qui s'approche d'elle. Derrière, il aurait mis sa main dans son entrejambe. La petite fille a réussi à s'enfuir. Elle a réussi à prendre l'autobus. Mais ce genre d'histoire-là serait arrivé au moins 3 autres fois. D'autres agressions qui seraient survenues cette fois-ci à Montréal. C'est toujours des petites filles qui ont entre 10 et 14 ans. Le même homme. Les petites, au moins, ont toujours réussi à s'enfuir. Dans au moins un des cas, c'est l'homme qui aurait pris la fuite. L'homme en question, il a été arrêté. Il s'appelle Luis Walter Carrillo Hernandez. Il a 40 ans. Là, il est en prison en ce moment. Alors, si vous avez des informations, si vous avez vu une personne qui pourrait correspondre à sa description, il mesure 5 et 7, il a les cheveux bruns, les yeux bruns, il avait une voiture Toyota Corolla grise. Eh bien, c'est un homme aussi qui s'exprime en français avec un accent espagnol. Si donc, parlez-en avec vos enfants, c'est ce que les policiers recommandent parce que votre fille pourrait ne pas en avoir parlé à l'école ni non plus aux parents. Donc, on vous recommande effectivement d'en discuter avec eux puis de les appeler si vous avez de l'information.
Et la réglementation entourant les boissons sucrées alcoolisées qui a été présentée hier, le père d'Athéna Gervais qui respire un peu mieux.
Parce que sa fille est morte en février 2018, ça fait plus d'un an qu'il essaie de faire changer les choses, d'interdire les boissons sucrées qui contiennent beaucoup d'alcool. Et là, enfin, le gouvernement a changé les règles. Depuis hier, les canettes aromatisées peuvent contenir un maximum d'une portion et demie d'alcool. Avant, il y avait des canettes qui pouvaient contenir jusqu'à 4 portions par contenant. Là, donc, c'est super pernicieux comme effet. Là. Vous vous rendez pas compte en raison du sucre, entre autres, qui a beaucoup d'alcool. Athéna Gervais, donc, est morte noyée dans un ruisseau près de son école à Laval. Elle avait bu 3 canettes de Fucked Up en 30 minutes. Ça, c'est l'équivalent de 12 coupes de vin. Et son père dit qu'au moins, sa mort va avoir servi de leçon.
C'est encourageant pour continuer dans le cas. Ça m'en donne un peu de gaz. Au moins, il y a quoi qui bouge. Ça va servir au moins quelque chose. Je sais qu'il y a encore du travail, mais avec le pas qui est franchi là, je vais pouvoir commencer à me reposer un petit peu plus.
Il aurait quand même aimé que les portions changent, c'est-à-dire que ce ne soit pas une portion et demie par canette, mais bien une portion. Et qu'il dit aussi qu'il y a du travail à faire quant à l'affichage et à la publicité faite directement aux jeunes.
Merci, Marie-Laurence.